et au verset 14. Même on va commencer au verset 8, tiens, pour avoir le contexte. Éphésiens 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Il y a bien des années de cela, avec mon épouse Hélène, nous avions servi le Seigneur dans un camp d'adolescents, et lorsque tout a été terminé, lorsque tous les gamins ont été récupérés par leurs familles respectives, eh bien on a rassemblé tous les moniteurs, toute l'équipe d'encadrement, et nous avons été pour fêter la fin du camp au restaurant. Voilà, c'était un dimanche de juillet, il faisait très chaud. Et après ce repas, vers le coup de, je ne sais pas, moi, 14h, 15h, nous avons pris la route, ou plutôt l'autoroute, pour prendre quelques temps de congé, aller chez nos parents. Et sur l'autoroute, vous voyez, elle était toute droite. Il y a eu une panne des paupières. Et je me suis endormi. Mais la voiture a continué tout droit. Et Hélène s'en est aperçue. Alors elle m'a dit, « Tu dors !» Et ça suffit, le croirez-vous, pour me réveiller. Je n'avais pas pris conscience que j'avais perdu conscience. Mais ce cri qu'elle a poussé a suffi pour me stimuler, n'est-ce pas, et pour retrouver mes esprits. Eh bien, c'est un petit peu cela qu'il y a là. Réveille-toi, toi qui dors. Il y a là une exhortation pressante du Seigneur qui nous exhorte, qui exhorte son peuple, parce que nous sommes son peuple, alléluia, à se réveiller. Dans nos milieux évangéliques, on parle souvent de réveil spirituel, et peut-être on fait référence en cela au temps passé ou la gloire du Seigneur se manifestait, nous avons entendu des récits, peut-être certains d'entre nous avons vécu des choses particulières, on dit, c'était le réveil. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'un réveil dans le domaine spirituel? Eh bien, un réveil spirituel, c'est une prise de conscience que notre état spirituel n'est pas ce qu'il devrait être. Le réveil commence quand on est insatisfait de ce que nous sommes en train de vivre sur le plan spirituel. Ça commence par ça. Et c'est un désir profond, intense, durable, vous voyez, ce n'est pas une petite émotion passagère, fugace, non, mais un désir durable de sortir de cette situation anormale. On soupire après quelque chose de nouveau. On aspire à quelque chose de différent que cette espèce de médiocrité spirituelle, j'entends, dans laquelle peut-être nous nous sommes installés. Et puis, ça ne reste pas au niveau des désirs, même intenses, même profonds, même sérieux. C'est la mise en œuvre des moyens appropriés pour sortir de cet état spirituel insatisfaisant. Mais finalement, on pourrait dire que le réveil est là quand Dieu retrouve la place qui lui revient dans notre vie, dans notre Église, dans notre existence. C'est-à-dire, vous le comprenez bien sûr, la première place. Il ne s'agit pas que ce soit une expression, une manière de formuler quelque chose que nous avons l'habitude de dire, mais que ce soit dans les faits, d'une manière authentique, et que le Seigneur puisse retrouver la première place dans nos vies, dans nos cœurs. Alors, qui est concerné par le réveil? Qui a besoin de connaître un réveil dans sa vie spirituelle? Tout d'abord, nous pouvons dire que le réveil concerne l'Église ou les Églises. Pourquoi? Parce que pour être réveillé, il faut d'abord avoir été éveillé et puis ensuite s'être assoupi, d'où nécessité d'être finalement réveillé. C'est le cas des croyants. Ce n'est pas le cas des incroyants, ce n'est pas le cas des pécheurs de ce monde. Eux, ils ne sont même pas endormis, ils sont morts spirituellement. Hein? Parole de Dieu faisant référence à notre vie passée, au temps où nous ne connaissions absolument pas le Seigneur, nous dit « Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés dans lesquels vous viviez autrefois, mais Dieu, dans sa miséricorde, vous a ressuscité en Jésus-Christ. » Mais nous, chrétiens, nous avons reçu la vie de Dieu, mais parfois, cette vie intérieure que le Seigneur a voulu nous communiquer et qu'il aurait voulu nous communiquer avec tellement d'abondance, elle s'est quelque peu, et plutôt beaucoup que peu, assoupie, n'est-ce pas, endormie. Alors, il faut que l'Église se réveille. Quand le réveil est-il nécessaire? Eh bien, justement, quand nous vivons des temps d'assoupissement spirituel. Jésus, vous savez, a combattu à Gethsémané, là, dans ce moment particulièrement marquant de sa vie, particulièrement douloureux. Là, il a prié, il a combattu pour que sa volonté humaine, sa volonté d'homme, car il était parfaitement homme, puisse être soumise, sa volonté, à la volonté divine. Et il a fini par dire, « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et dans ce moment terrible, la parole de Dieu nous dit que Jésus a éprouvé des angoisses, de la tristesse. Il dira « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et il a éprouvé le besoin, ça prouve bien qu'il était un homme, de s'entourer de ses amis les plus proches, de ses disciples les plus intimes, Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et alors qu'il comptait sur eux pour prier avec lui, et pour prier pour lui, pour le soutenir dans ces moments si importants, voici que leurs yeux, dit la Bible, étaient appesantis par le sommeil et Jésus s'est dirigé vers Simon, Pierre, en lui disant « Simon, tu dors. » Et il ajoutera, s'adressant à Simon et à ses amis, à ses collègues, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. » Voyez, il s'était assoupi. L'assoupissement provient de la négligence quant à la piété. Vous n'avez su prier une heure avec moi. Est-ce que les enfants de Dieu que nous sommes prennent le temps de passer du temps? C'est un pléonasme, c'est une répétition, mais elle est volontaire. Prennent le temps de passer du temps avec le Seigneur. Peut-être y a-t-il eu ces moments dans ta vie où tu entretenais la communion avec le Seigneur, tu savais ce que c'était que de fléchir le genou devant Dieu et de rester là un bon moment dans la prière. C'était une part importante de ta vie et dans ta journée, bien sûr, il y avait les activités professionnelles, il y avait tout ce de quoi la vie ordinaire est faite, mais tu savais aussi, soit le matin, soit le soir, eh bien fléchir le genou devant Dieu et te tenir devant le Seigneur. Mais parfois, il y a négligence dans la piété, négligence dans la communion avec le Seigneur. Parce que le but de la prière, ce n'est pas simplement de formuler une liste de besoins que nous présentons au Seigneur, c'est d'être avec lui. Avec lui. Vous voyez ? Dans l'évangile de Marc, quand Jésus a choisi les 12 apôtres, vous vérifierez, j'ai oublié la référence exacte, c'est le chapitre 3, mais je ne me rappelle plus du verset. Jésus les a appelés, dit l'Écriture, pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le don de chasser les démons. Leur premier appel consistait d'être avec Jésus. Et notre appel, notre vocation, c'est d'être avec Jésus. Est-ce que nous sommes avec Jésus? Est-ce que nous sommes avec Jésus? Le réveil est nécessaire quand nous connaissons des temps de tiédeur. Alors nous savons le reproche, l'avertissement sérieux que le Seigneur lance à cette église de Laodicée dans l'Apocalypse, chapitre 3, quand il fait ce constat, tu n'es ni froid ni bouillant parce que tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche. Et le Seigneur ne se contente pas de faire ce constat, mais il présente la solution, le remède. C'est la repentance. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Jésus dit à cette église, « Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. » J'ai remarqué que souvent, nous fractionnons cette parole, hein. Nous commençons souvent cette citation en disant « Voici, je me tiens à la porte. » Mais il faut considérer ce qui précède. « Aie donc du zèle et repens-toi. » Voyez, ce qui permet à la porte de notre cœur de s'ouvrir, c'est la repentance. C'est quand on réalise que dans notre vie, eh bien, il y a des choses qui clochent sérieusement, qu'il faut les remettre en ordre. « Aie donc du zèle et repens-toi. » Dans la notion de zèle, il y a une idée d'empressement. Voyez, comme si le Seigneur disait ne tarde pas, c'est urgent. C'est un petit peu cette pensée qui est exprimée dans le texte que nous avons lu en préambule, où le Seigneur dit rachetez le temps. Rachetez le temps. Permettez que je tourne ça d'une autre manière. Je ne crois pas tordre le sens du texte. C'est le Seigneur qui nous dit ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Ne dilapide pas le temps, n'est-ce pas ? Mais use de cette occasion, de cette opportunité pour te repentir. Quelqu'un a dit que la repentance, c'est ce qui fait tourner la porte sur ses gonds. Puisque Jésus a dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, eh bien c'est la repentance, la remise en question de notre vie spirituelle qui ouvre la porte. Bien sûr que nous sommes sauvés. Bien sûr que le Seigneur nous a fait grâce quand on a péché passé. Bien sûr qu'il saura faire en sorte que eh bien, par sa grâce soutenue, nous aboutissions au but ultime, l'entrée dans le royaume éternel. Mais vous savez, le Seigneur dit qu'il y a des gens qui seront sauvés comme au travers du feu. Moi, je n'ai pas envie d'être sauvé comme au travers du feu. C'est-à-dire tout juste, in extremis. Je veux pouvoir... Eh bien, attirer non pas la sympathie, mais le plaisir du Seigneur. Je veux qu'un jour Jésus puisse me dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Et quand on s'aperçoit qu'on n'est pas dans cette démarche, oui, il faut se repentir. Oui, il faut se repentir. Oui, il faut dire, Seigneur, les choses clochent sérieusement dans ma vie. Et je m'en humilie devant toi. Et je ne veux pas simplement me frapper la poitrine et m'humilier. Mais Seigneur, avec ton aide et ton secours, je veux faire en sorte que les choses changent. Pourquoi ne pas dresser une liste, là, par écrit, dire, Seigneur, qu'est-ce qui cloche dans ma vie spirituelle? Voyons, sans indulgence pour moi-même, sans... circonstances atténuantes que je voudrais essayer de me trouver, sans fausses excuses. Qu'est-ce que je dois remettre en cause? Qu'est-ce que je dois rectifier dans tel ou tel domaine? Et puis ensuite dire, Seigneur, tu vois cette liste, eh bien tu vas faire en sorte que point par point ces affaires soient réglées. Peut-être c'est dans mon caractère, peut-être c'est dans mon comportement. Trop souvent, on se défend, vous savez, en disant, oh, c'est mon caractère. Je me suis mis en colère, j'ai eu des paroles désagréables pour mon mari, pour mon épouse. J'ai été agressif dans mes propos. C'est mon caractère, il ne faut pas m'en vouloir. Mais le Seigneur n'est-il pas capable de changer notre caractère? Il ne délivre pas simplement de la drogue, de la délinquance, de l'ivrognerie ou de choses semblables. Il œuvre aussi dans notre caractère. Peut-être est-ce que, eh bien, au niveau de mes loisirs, je passe trop de temps, je ne sais pas, devant la télévision, par exemple. Non pas que ce soit formellement interdit, mais Seigneur, je veux réviser cela. Je veux remettre de l'ordre. Je veux remettre les bidons en place dans ma vie. Je veux que les choses deviennent comme tu le désires. Voyez, c'est ça la repentance. Ce n'est pas simplement, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. On peut dire ça jusqu'à la fin de notre vie sans que jamais rien ne bouge. Il faut que ce soit un suivi des faits. Et oui, le Seigneur à cette église de Laodicée, c'est terrible quand même quand on y pense. Alors on dit ce verset magnifique, Jésus est à la porte, il frappe. Mais dites-moi, il ne s'adresse pas à des païens? Souvent on applique ce texte à des inconvertis. Ce n'est pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est à une église qui parle. Ne trouvez-vous pas qu'il y a là une anomalie? Jésus est à l'extérieur. Et pourtant, c'est son église. Mais ces gens ont réalisé ce triste exploit de mettre Jésus à la porte. Non pas qu'ils aient dit verbalement, nous ne voulons plus de toi. Mais dans les faits, par leur inconstance, par leur tiédeur, c'est ce qui s'est produit. Et Jésus est bon parce qu'il revient à la charge. Il veut entrer. Il veut entrer dans l'église. Il veut entrer dans nos cœurs. Il veut entrer dans nos vies d'une manière plus effective. Et puis, il veut entrer dans tous les compartiments de notre vie. Voyez ? Lorsqu'on reçoit quelqu'un chez soi, un invité, on le reçoit dans le salon, on l'installe sur le canapé, et peut-être avant qu'il arrive, voilà, on met de l'ordre, on range les papiers, le bazar, pour faire bonne impression. Mais ça, c'est un visiteur. Jésus n'est pas un visiteur. Il est un résident. Et il faut qu'il ait accès dans tous les compartiments, les domaines de notre vie. Si vous m'invitez, je ne vais pas aller voir dans le placard ce qu'il y a. D'abord, ça ne me regarde pas. Et puis, peut-être, j'y trouverai du désordre, je ne sais pas. Et peut-être que dans notre vie, il y a des coins sombres. Nous disons, Seigneur, partout tu peux aller, mais pas là. Là, c'est domaine privé, jardin secret. Seigneur, non, pas derrière cette porte, je t'en prie. Mais il faut que le Seigneur puisse aller dans tous les domaines de notre vie. Vous savez, c'est parfois douloureux de se placer au pied du Seigneur et de lui ouvrir tout grand notre vie. Et point par point, de laisser sa parole et son esprit nous éclairer. Vous savez, Jésus se révèle dans l'Apocalypse comme celui qui a des yeux comme des flammes de feu, un regard pénétrant. Qu'est-ce qu'il voit dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il voit dans ma vie? Seigneur, je veux tout amener à la lumière. C'est ça le chemin du réveil, vous voyez? Ce n'est pas une effervescence passagère. Ce n'est pas une stimulation artificielle. Mais c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Le réveil est nécessaire quand on perd de vue ce qu'est la vraie foi. Je crois que c'est vendredi que je disais ça, dans le discours que Jésus fait à ses disciples concernant les événements de la fin des temps. Matthieu chapitre 24. Vous savez, ils sont assis sur la montagne des Oliviers. Devant eux se dresse le magnifique temple de Jérusalem. Et les disciples émerveillés disent, « Regarde, maître !» Quelle construction magnifique! Et Jésus dit, voyez, de tout ça, il ne restera pas pierre sur pierre. Et effectivement, selon la parole prophétique de Jésus, quelques 40 ans plus tard, les armées romaines ont envahi Jérusalem et ils ont tout cassé, le temple, la ville, ils ont massacré la population, ça a été quelque chose d'effroyable. Mais au-delà de cet aspect historique immédiat ou proche, Jésus se projette vers quelque chose de plus lointain, vous voyez, la fin des temps. Et il commence par dire ceci, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » La séduction spirituelle. La séduction spirituelle. Et nous vivons ces temps-là où la vraie foi, je parle de vraie foi, parce qu'il y a une foi tordue. Il y a une foi qui n'est pas une foi. qui n'est pas une foi authentique. C'est pour ça que Jésus, dans l'évangile de Luc, il dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ?» La foi. Vous avez remarqué que les gens sont croyants ? Oui, oui. Ils sont croyants. Ils croient aux devins, aux charlatans, aux guérisseurs. C'est pas vrai ? Ah, Madame Irma ou je ne sais plus qui. Hein ? Ah, Mamadou ou je ne sais plus qui. Mais quand vous leur parlez de Dieu, non, 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 ils n'en veulent pas. Donc, quelque part, ça n'est pas qu'ils ont de la difficulté à croire, c'est qu'ils ont choisi de ne pas vouloir croire ce qu'il faut croire. C'est une foi tordue. Alors ça, c'est quelque chose de particulier, mais nous devons prendre garde à ne pas, nous, chrétiens, nous laisser berner par des doctrines diverses et étranges. Il y a des fausses doctrines. Paul dira dans sa deuxième épître à Timothée, « Viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, on entend des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, se détourneront de la vérité, se tourneront vers les fables. » Moi, je vous dis que cet état d'esprit, il existe parfois même au sein du monde évangélique. Vouloir entendre des choses agréables, qui font la promotion de la chair, qui, n'est-ce pas, affirme que nous avons un potentiel tellement remarquable que ça va être formidable. Vous savez, avant de nous élever, Dieu nous abaisse. Celui qui s'abaisse, il sera élevé, celui qui s'élève, il sera abaissé. Même lorsque Jésus s'est révélé à Paul, pour lui dire, voilà, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et le peuple d'Israël. Quelle vocation remarquable. Mais Jésus n'oublie pas de dire, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il y a des lieux, il y a des prédicateurs ou pseudo-prédicateurs qui encensent la chair. Tout le monde va avoir un ministère remarquable. Et quand bien même ce serait vrai, n'oubliez jamais que le chemin de l'élévation, il passe par l'abaissement. Même Jésus a connu ce processus. Qui a eu un ministère plus fécond et plus grand que Jésus ? Personne. Mais il a connu l'humiliation, l'abaissement et le dépouillement. Et c'est ainsi qu'il faut voir les choses. Prenez garde à ce qui exalte la chair, à ce qui monte en épingle nos qualités humaine, naturelle, non pas qu'il faille les mépriser, mais il faut que toute gloire revienne à Dieu. Toute gloire revienne à Dieu. Même Paul, nous y revenons, disait, mais ce que je suis, mais je le suis par la grâce de Dieu. Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Vous savez, la chair, elle aime bien la flatterie. C'est vrai, hein? On préfère être admiré que critiqué, oui ou non. C'est pas vrai ? C'est humain, c'est naturel. Hein ? Et il faut laisser la parole de Dieu nous interpeller, que nous ne dévions pas du cas. Il y a besoin d'un réveil aussi quand le péché opère des ravages, même dans les temps des croyants, dans les rangs des croyants, dans les rangs de l'Église. Quand au sein de l'Église, se produisent des chutes morales retentissantes, eh bien, il y a besoin d'un réveil. Et je ne parle pas seulement de péchés grossiers, mais voyez, par les temps qui courent, il me semble qu'il y a une accoutumance qui peut se produire, qui se produit chez certains. Ils s'accoutument à la transgression facile des commandements du Seigneur sur des points jugés mineur ou anodin. Alors, quand notre conscience nous fait sur tel ou tel point quelques reproches, il y a de ces gens qui se défendent en disant « Oh, mais c'est pas si grave que ça !» Et puis on ajoute « Mais après tout, tout le monde le fait !» Vous savez, Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, au verset 12, « Parce que l'iniquité se sera accrue. » Et c'est le cas, non ? Les fondements moraux de notre société sont renversés aujourd'hui, c'est pas vrai? On en est là, quoi. Bien sûr qu'il y a toujours eu des pécheurs, et tous les hommes ont toujours été des pécheurs, mais les règles morales les plus élémentaires aujourd'hui sont transgressées Et non seulement elles sont transgressées, mais on encourage les gens à les transgresser. La normalité est devenue anormale. Ou si vous voulez dire autrement, le mal est devenu bien, et le bien est devenu mal. C'est vrai ou pas? C'est comme ça. Et prenons garde pour que cet état d'esprit ne nous contamine pas. Ne nous contamine pas, parce que l'iniquité se sera accrue. La charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ce qui se produit quand on constate que le péché reconquiert, regagne le terrain qu'il avait perdu auparavant. L'iniquité ambiante parvient à exercer son influence néfaste au sein du peuple de Dieu. Au début, insidieusement, la parole de Dieu dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Ensuite, avec une force toujours plus grande, la parole de Dieu nous parle de la séduction de l'iniquité. L'Antichrist, quand il viendra, et s'il n'est pas là physiquement, son état d'esprit est à l'œuvre déjà, sera maître en ce domaine, voyez. C'est pourquoi nous sommes exhortés à fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Non seulement il faut fuir le péché, mes amis, mais il faut fuir même ce qui a l'apparence du mal. Ce qui, sans être le péché, effectivement, peut nous conduire au péché. C'est David qui dira, je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Voyez ? Prenons garde à ne pas être désinvolte, léger, à côtoyer de trop près les choses pernicieuses. Vous savez, j'emploie toujours cette image, quand on frôle le précipice, on finit toujours par y tomber. On finit toujours par y tomber. Il ne s'agit pas d'être austère, raide comme la justice, raide comme un passe-lacé, comme on dit chez moi. Non, la vie chrétienne est faite de joie, de gaieté, mais pas de légèreté excessive. Que Dieu nous fasse grâce. Le besoin de réveil est grand quand les manifestations de la gloire de Dieu, sa présence active, ne sont plus si fréquente, ni si éclatante que par le passé. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13, au verset 1er, il est dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions étaient peu fréquentes, voyez. L'esprit prophétique, authentique, attention, authentique, était absent, comme si Dieu était silencieux. Quand Dieu se tait, c'est mauvais signe. Ça veut dire que précédemment, on n'a pas écouté ce qu'il voulait dire. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un temps de silence qui a duré 450 ans. Après le ministère des prophètes, vous voyez, on arrive au livre du prophète Malachie. Voilà. Et là, Dieu se tait. Et pendant 450 ans, il n'a plus paru de prophète. Le prophète suivant fut Jean-Baptiste. Mais entre cette période, ces deux personnages, Malachie et Jean-Baptiste, 4 siècles et demi, où Dieu n'a rien dit. Et pourtant, des événements au sein du peuple juif, il s'en est produit. Des événements importants. Pourquoi est-ce que Dieu s'est tu pendant 4 siècles et demi? Parce qu'il avait tout dit, parce qu'il avait tout répété à maintes reprises par la voix des prophètes, et le peuple n'avait pas voulu entendre, alors il subissait maintenant les conséquences de ces inconséquences, et c'est dans cette période que le peuple d'Israël a connu une période particulièrement trouble et difficile, jusqu'à ce que Dieu fasse grâce, bien sûr, qu'il envoie Jean-Baptiste, et puis Jésus, et puis, béni soit Dieu. Nous avons besoin de retrouver cela. Alors, je pense que ce que nous venons de dire, voyez, je ne voudrais pas vous accabler, mais d'une manière générale, il me semble que c'est là l'état de l'Église de Christ, tout au moins dans les pays occidentaux. D'où nécessité pour nous de connaître un puissant réveil. Un puissant réveil. Et tout le monde est concerné. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, par les lèvres de l'apôtre Paul, le Seigneur disait, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Tout le monde est concerné. Qu'il puisse y avoir dans notre vie cette acceptation d'une remise en question. Cependant, je voudrais dire ceci. C'est que même dans des églises assoupies, il y a des âmes réveillées. Le prophète Élie disait, « Seigneur, je suis resté moi seul. » Il était au bout du rouleau, il n'en pouvait plus, il voulait mourir. Et l'ironie de Dieu, c'est que Élie n'est jamais mort. Hein, puisque le Seigneur l'a enlevé direct dans la gloire. Il dit, « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. » Et il répète ça, « Je suis resté moi seul. » Et Dieu lui dit, « C'est pas vrai, parce que moi je vois ce que toi tu n'as pas vu. » Il y en a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Devant le faux Dieu. C'est pourquoi je dis que même parmi les églises assoupies, il y a des âmes éveillées, ou réveillées. Et dans l'Apocalypse, c'est pareil, vous voyez. Dans l'Apocalypse, là, quand nous lisons les lettres adressées aux sept églises, il y a des situations qui sont vraiment pas brillantes du tout. C'est vraiment pas le réveil. Mais le Seigneur prend soin de distinguer certains des autres, en disant, oui, mais il y en a quand même quelques-uns qui marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Des âmes réveillées, des âmes... Je ne suis pas obligé de me laisser emporter par l'assoupissement général ou généralisé. Moi, à ma place, individuellement, personnellement, je peux choisir d'être un chrétien réveillé. Je peux choisir d'être un chrétien réveillé. Le Seigneur ne fait pas l'amalgame. Il s'est repéré, distingué, n'est-ce pas? Approuver ceux qui sont encore dans le coup, même au sein d'une communauté moribonde. Je ne dis pas que c'est notre cas. Et ces gens-là, voyez, par leur zèle, par leur ferveur, par leur engagement, notamment dans l'intercession, peuvent faire la différence et devenir des instruments de réveil pour l'ensemble de l'Église. Alléluia. Bien sûr que dans les réunions de prière, on voudrait être plus que ça. Bien sûr que dans les temps de jeûne et de prière, on voudrait être plus qu'une poignée. Même moi, je vous dis, mes amis, la part du Seigneur, que même avec une poignée, Dieu peut faire de grandes choses. Il y a un verset qui dit qu'il peut sauver au travers d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Alors même si nous sommes peu, eh bien, si le feu nous anime, nous pouvons transmettre le feu à tous les autres. Et quand l'Église est réveillée, eh bien, elle a un impact sur le monde qui l'entoure, au sein duquel elle se trouve, parce que nous ne sommes pas du monde, mais dans le monde. Elle a un impact, une influence positive. Son message, quand l'Église est réveillée, son message, c'est-à-dire l'Évangile, est puissamment annoncé. Ce message, quand l'Église est réveillée, est miraculeusement confirmé, Marc chapitre 16, verset 20, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Et des âmes en masse se donnent alors au Seigneur et sont sauvées. Actes chapitre 2, quelques disciples, mais des disciples motivés, en prière, dans la chambre haute, dans l'attente, mais pas une attente passive, l'attente active de la foi. Et voici que le feu de l'Esprit descend sur eux, les embrase, et c'est le réveil. Dans l'Église, pour l'Église, et puis par l'Église. Elle sort de ses murs. Pierre prêche. 3000 se convertissent. Et puis, encore, et encore, et encore, et encore. Gloire à Dieu. Et le plus beau des résultats du réveil, il nous est exprimé dans ce texte du livre des Actes, vous verrez, au chapitre 19, au verset 17. C'est le réveil d'Éphèse. Il y a 12 disciples. C'est pas beaucoup, ça. Hein? Paul arrive. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On n'a même pas entendu parler de ça. Alors, pourtant, ce sont des disciples, des gens qui sont nés de nouveau, qui aiment Jésus, mais voilà, leur vie spirituelle n'est pas effervescente. Alors, Paul prie pour eux, ils sont baptisés, remplis du Saint-Esprit. Et puis voilà, le ministère de Paul s'exerce, il y a des miracles extraordinaires. Nous, des fois, on se contenterait de miracles ordinaires, comme pensez-vous. Hein? Mais une question, là, de miracles extraordinaires. Et c'est le feu de Dieu qui embrase la ville d'Éphèse et même toute la région. Alors, voilà, oui, c'est vrai, les suppôts de Satan sont balayés. Vraiment, des choses merveilleuses se produisent, des guérisons, des miracles, des conversions. Mais le plus beau résultat, Actes chapitre 19, verset 17, nous dit ceci. Et le nom du Seigneur était glorifié. Alléluia. Quand l'Église est réveillée, et que le feu qui brûle en son sein se répand à l'extérieur, le plus beau des résultats, ce n'est pas de promouvoir telle ou telle communauté, mais c'est que le Seigneur soit glorifié. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Le réveil est possible. Amen. Le réveil est possible. Est-ce que nous avons soif de connaître quelque chose de nouveau? Vous savez, des fois, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je bave d'envie, hein, quand je lis certains récits de ce qui se passe en Afrique, ou en Asie, ou en Amérique latine, ou ailleurs encore. Je dis, Seigneur, souviens-toi de nous. Et je crois que le Seigneur ne nous a pas oubliés. Amen. Je crois que le Seigneur aime la France. Amen. Qu'il aime les Français, même ceux qui vivent sur ce sol de France. Et que le Seigneur est capable de faire des projets et d'aller jusqu'au terme de ces projets, les réaliser, et que sa gloire soit manifestée. Amen. Mais nous avons une part de responsabilité. Réfléchissez à ce texte. Réveille-toi, toi qui dors. Chacun individuellement. C'est si facile de dire, ouais, mais il faudrait que ceci, cela, le reste... Sous-entendu, il faudrait que les choses changent. Non, placez-vous devant le Seigneur et dites-vous, mais qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour que tu commences ton œuvre? Seigneur, commence-la par moi. Hein? On connaît la parole du président Kennedy qui disait aux Américains, ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Et je crois que c'est l'état d'esprit qu'il faut que nous ayons, voyez. Il ne faut pas que nous développions une espèce d'assistanat spirituel. Ce sont toujours les autres qui doivent m'amener, m'apporter. Non, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma propre vie? Je ne parle pas d'œuvres grandioses, de services extraordinaires. Commençons pas par ça, non. Mais dans ma vie intérieure, qu'est-ce qui doit changer? Je veux avoir le courage, Seigneur, de me placer devant toi, de rester là, recueilli dans ta présence, que ton esprit sonde mon cœur, que ta parole me travaille, que tu me montres, tiens, tu vois, dans tel ou tel domaine, dans ta manière de te comporter, dans tes propos, dans les pensées que tu entretiens dans ton esprit, peut-être dans les fantasmes que tu cultives, peut-être dans les spectacles que tu te permets de regarder à la télévision, dans les ouvrages que tu consultes, dans les conversations que tu te permets d'avoir avec tes collègues de travail. Il faut que tu changes ça. Il faut que tu rectifies le tir. Il ne faut pas que tu t'associes avec les païens, les pécheurs. Il faut que tu te distingues. Tu dois être comme un lys sur un tas de fumier. Tu dois faire la différence. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Seigneur, montre-moi. Vous allez voir que le Seigneur montre. Alléluia. Le Seigneur va mettre des choses à nu et peu à peu, avec sa grâce, son secours, point par point, on règle ces choses-là. C'est comme ça que le réveil commence. C'est comme ça que le réveil commence. Amen. On prie le Seigneur.